autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Hugo Violas à la réalisation. Ils font peur, mais ils fascinent aussi. Ce sont les poisons et les venins. Ils sont produits par de nombreuses espèces. Serpents, évidemment, araignées et scorpions, mais aussi par des grenouilles, des poissons et des plantes. Comment fonctionnent ces venins? Au total, ils tuent environ, enfin plus de 150 000 personnes par an dans le monde. Mais ils sont aussi de plus en plus utilisés pour soigner. Et ils interviennent dans des dizaines de médicaments, car ils contiennent des molécules très utiles pour notre santé. À quoi servent ces poisons? Découvrons ces mystérieuses substances à l'occasion d'une exposition exceptionnelle au Palais de la Découverte, en compagnie de deux invités aujourd'hui, Christine Rollard et Jean-Philippe Chipot. Bienvenue à vous. Christine Rollard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, maître de conférences, et vous êtes spécialisée sur les araignées. Donc les araignées, on ne peut pas parler des araignées sans parler des venins, évidemment.
Forcément, puisque là, on s'adresse à un animal venimeux, donc qui possède du venin.
Donc nous allons y venir. Hein. Donc vous avez travaillé aussi sur cette exposition au Palais de la Découverte, dont nous allons parler. Jean-Philippe Chipot, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, votre spécialité, ce sont les serpents plutôt, les serpents d'Afrique notamment.
Tout à fait, Afrique et Amérique du Sud.
Vous avez passé beaucoup d'années sur le terrain.
Hein. Un peu plus de 50 ans, oui.
Dans différents pays d'Afrique.
Différents pays d'Afrique et d'Amérique latine, puisque j'ai également travaillé en Amérique du Sud.
Donc vous avez tous deux publié de nombreux ouvrages hein, sur les araignées, Christine Rollard, notamment « Fascinantes araignées » aux éditions Quai, également Arachna, les voyages d'une femme araignée. La femme araignée, c'est vous. Hein.
Pareil,
vous êtes,
oui.
Aux éditions Belin, vous êtes la spécialiste des araignées. Jean-Philippe Chipot, vous aussi, alors vous avez publié plus de 15 ouvrages hein, sur les maladies tropicales de manière générale. Donc les serpents d'Afrique occidentale et centrale, une sorte de guide des serpents.
Oui, c'est un livre de zoologie, c'est plus pour les spécialistes que pour le grand public. Mais...
Oui, alors donc vous avez publié aussi, tous deux, vous avez coordonné un livre qui s'appelle « La fonction venimeuse » aux éditions Lavoisier. Donc là, c'est un livre vraiment scientifique sur la fonction biologique des poisons et des venins.
Oui, c'était un livre multi-auteur qui est coordonné par Jean-Philippe Chipot, Max Goiffon et moi-même. Et où là, on faisait un petit bilan de tous les animaux venimeux avec leur biologie, leur écologie, la toxicologie, les traitements éventuels. Hein, donc ça fait un petit tour d'horizon et c'est un ouvrage qui avait été édité il y a quand même pas mal d'années et qui a été réédité avec une réévaluation de toutes les connaissances.
Mais on trouve des animaux venimeux dans quasiment
beaucoup de groupes zoologiques.
Beaucoup de groupes, hein, alors les scorpions, les acariens, les mollusques aussi.
Bien sûr, oui. Dans les serpents, bien évidemment, c'est ceux qui sont le plus connus quand même.
Est-ce qu'il faut dire alors poison ou venin?
Alors, on réserve en principe, on réserve le terme de poison à tout ce qui est végétal. Donc les poisons sont végétaux, ce sont les plantes, les champignons, etc. Et venin, c'est produit par un animal. Alors la particularité, c'est que le venin peut être délivré à l'intérieur de la proie par un appareil spécialisé. Donc, ce sont les animaux venimeux et un appareil spécialisé.
D'inoculation, en fait.
D'inoculation, merci. Mm-hmm. Et puis, vous en avez qui sont plutôt, qu'on va considérer comme vénéneux, parce qu'eux sont toxiques par ingestion.
Oui, alors,
quand on les
déjà,
mange.
Alors, donc, le poison, c'est plutôt pour les plantes, le venin pour les animaux. Et il y a aussi, alors, une différence entre animal venimeux et animal vénéneux.
Exactement.
C'est quoi exactement la différence?
Donc on note d'ailleurs la différence aussi dans l'exposition, en fait, en partie. Et on parle d'animaux vénéneux, on va dire, quand ils ont effectivement des poisons ou des venins à l'intérieur de leur corps, de
venimeux.
Leur organisme, vénéneux.
Vénéneux.
Et ce venin va agir quand il est ingéré.
D'accord. Par exemple, ça va être alors une grenouille.
Bah, ça peut être un poisson aussi.
Un poisson.
Par exemple, on connaît bien le fougou, par exemple.
Oui, le fougou, on en parlera plus tard.
Donc voilà. Et puis ensuite, les animaux venimeux, ont des glandes qui contiennent ces venins. Un animal venimeux, on va distinguer deux choses. Un animal venimeux actif, qui va justement avoir un organe de perforation et d'inoculation de venin, araignée, scorpion. Et puis des animaux venimeux qui sont plutôt passifs, qui ont bien des glandes avec un venin qui va être expulsé d'une façon ou d'une autre. Mais là, souvent, ces animaux-là vont utiliser ce venin pour se défendre et non pas pour, en général, pour attaquer une proie.
En général, les venimeux donc attaquent une proie qu'ils vont manger.
Et en général, c'est la première fonction d'un animal venimeux, c'est d'utiliser leur venin pour se nourrir. La première fonction, c'est ça, en général.
Partons justement au Palais de la Découverte pour cette exposition dont nous parlions avec le reportage de Raphaël Constant.
Le venin, c'est un truc qui peut te tuer en quelques minutes.
C'est une substance, on va dire, qui pique, qui gratte, et même des fois qui peut être mortelle. Bah, par exemple... Les espèces de grenouilles qui sont là.
Qu'est-ce que tu as vu comme grenouille qui pique?
Alors j'ai vu une grenouille verte, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Et elle peut faire quoi déjà, maman?
C'est sa peau, je crois, qui sécrète une substance urticante.
Par exemple, ce serpent, quand il jette sur la proie, la peau elle devient toute liquide et comme ça après il la mange.
Et c'est quoi ce serpent qu'on a juste devant nous?
Un Crotal diamantin de l'Ouest.
Quand on voit les serpents, leur déplacement, c'est toujours cette dangerosité qui nous attire. Hein, toujours un petit, enfin, je pourrais peut-être pas forcément parler de macabre, mais de cette curiosité pour tous ces produits dangereux. Voilà, c'est un petit peu ça que ça m'évoquerait.
Et quelles espèces sont concernées par le poison, le venin?
Un petit peu tout en fait, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est de voir ne serait-ce que les minéraux, l'arsenic par exemple qui est un poison bien connu, et puis ensuite vraiment on traverse un petit peu les plantes, les champignons, les oiseaux, même les oiseaux, j'ignorais que les oiseaux étaient vénéneux, amphibiens, reptiles, hein, poissons oui aussi, tout le règne animal et végétal en fait finalement.
Pour moi c'est une sorte de liquide que quelques insectes ou animaux se servent pour se défendre ou pour manger.
Quelles espèces par exemple?
Les serpents et quelques insectes comme les phasmes ou des scarabées.
Et est-ce que ça te fait peur?
Je croise un serpent, je cours.
Et vous monsieur, qu'est-ce que ça vous évoque le venin, le poison?
Je trouve que c'est un côté très romanesque. Donc moi, le venin, pour moi, c'est les films d'aventure avec les méchants, les films de cap et d'épée avec les bagues, les intrigues, les espions, le cyanure, les fausses dents. Moi, je lis beaucoup plus ça à un côté du domaine de l'imaginaire qu'un domaine animalier. Je pense que pour les animaux, c'est des mécanismes de défense ou d'alimentation. Mais pour l'imaginaire humain, oui, c'est une mythologie.
C'est vrai qu'il y a une sorte de mystique autour du poison, du venin, qu'elle soit romanesque ou même chimique, scientifique, dans le sens où c'est une substance qui peut tuer, mais qui peut aussi guérir.
Oui, c'est ça qui est très troublant sur tout ce qui est les poisons et les venins, c'est effectivement de se dire que c'est infinitésimal. Je veux dire, tu peux peut-être d'un microgramme ou d'une goutte pour qu'on passe d'un aspect préventif, curatif, à un aspect mortel.
Cela vous évoque quoi, ces réactions du public à l'expo du Palais de la Découverte, Christine Rollard?
Des sourires un petit peu, puisque c'est vrai qu'on a brossé à travers ce petit témoignage là un certain nombre de points avec encore des idées reçues quand même hein, malgré
par
tout.
Exemple
de ne pas dissocier ce côté un animal venimeux et forcément entre guillemets il y aura forcément un contact avec nous et il est dangereux pour nous. On n'arrive pas à dissocier, il y a des animaux venimeux mais il y a aucune relation avec l'homme de toute façon dans leur mode de vie et c'est absolument pas dangereux pour nous quoi.
Oui mais pas dangereux parce qu'on a peu de probabilité
de les rencontrer. Exactement.
Mais il vaut mieux quand même ne pas les rencontrer.
Mais non, on peut très bien les observer. Si vous observez une araignée, si vous observez un scorpion, si vous observez un serpent, alors bon, j'entendais, il y en avait qui disaient qu'il fallait absolument
courir.
Je pars à toute vitesse. C'est plutôt si on fait des vibrations face à tous ces animaux-là, la première réaction qu'ils vont avoir, c'est la fuite.
Hein, oui, il ne va pas vous attaquer.
Il ne va absolument pas nous attaquer. Donc en général, ces animaux-là n'avons pas attaqué l'homme comme ça. Nous ne sommes pas leur proie. Donc c'est vrai qu'il y a, cet aspect-là qui me fait toujours un petit peu sourire, parce qu'il y a, mais c'est normal, hein, en même temps, il y a une méconnaissance, et c'est très bien qu'il y ait une exposition comme ça,
donc,
qui essaye de montrer les choses.
Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir peur des animaux venimeux.
Absolument pas. Venimeux n'est pas égal dangereux pour l'homme, et n'est pas égal non plus à potentiellement douloureux, si vraiment on se fait mordre ou piquer, quelquefois on peut avoir des douleurs, mais c'est pas forcément du tout
donc,
dangereux.
Donc cette expo, le but, c'est aussi de, voilà, disons, de défaire des idées reçues.
Exactement. Et le côté mortalité aussi. Mortalité qui n'existe que chez certains animaux venimeux par rapport à l'homme. Mais en général, il n'y a pas ils ne sont pas mortels pour l'homme.
On va y venir à la mortalité, justement. Et Jean-Philippe Chipot, ses réactions du public, on parlait par exemple de venins qui peuvent tuer en quelques minutes.
C'est ça.
Oui. Alors ça effectivement, c'est assez exagéré. Il n'y a pas de venin qui tue en quelques minutes. Fort heureusement, les venins tuent en plusieurs heures, voire en plusieurs jours, ce qui nous laisse le temps, en cas d'envenimation.
Oui, même le serpent traiter. Le plus dangereux du monde, son venin ne tue pas en quelques minutes quand même.
Non, il n'y a pas de...
Combien de temps on peut avoir de survie
En plusieurs heures, de toute
plusieurs
façon.
Hein,
c'est les élapidés, c'est-à-dire les cobras, les mambas, le serpent corail, hein, ont un venin qui est extrêmement actif et très rapide. Il tue entre 2-3 heures au plus court et 8 à 24 heures. Donc on a quand même un certain délai pour
le prendre. Oui, c'est pas comme dans les films où on a l'impression qu'on va mourir forcément.
Non, il y a alors il y a des on entend pas des histoires qui racontent que par exemple un homme est mort une demi-heure après avoir été mordu. Alors il y a plusieurs hypothèses. D'abord, c'est très rare.
Mais ça dépend de l'endroit où on est mordu aussi.
Alors, ça dépend plus de l'endroit où a été inoculé le venin. C'est-à-dire, si le venin est inoculé dans une veine, par exemple, ce qui est très improbable, mais ce qui peut arriver.
Mais si le serpent vous mord à la gorge, par exemple.
Non, il n'y a pas plus. Alors, à la tête, pied, on a fait des études sur des centaines de milliers de cas. Il n'y a pas de différence en termes de gravité ou de rapidité d'action.
Ça dépend quand même de... Enfin, on peut se dire, quand on est néophyte, hein, que cela peut dépendre du temps mis par le venin pour atteindre le cœur, ce
genre
de choses.
Oui, alors, le venin, de toute façon, se distribue dans l'organisme par les vaisseaux lymphatiques, donc qui circule beaucoup moins vite que le sang, donc il se distribue très vite, hein, en quelques minutes, mais pas au point d'atteindre le cœur en une fraction de seconde.
Ce qui tue,
sauf cas extrêmement improbable, mais qui peut-être arriver d'une injection directement dans une veine. Auquel cas, effectivement, ça va aller beaucoup plus vite.
Mais ce qui tue exactement, c'est quoi? C'est quand le venin atteint le cœur, le cerveau ou les muscles? Qu'est-ce qui tue?
Alors, en fait, dans le venin, vous avez, pour chaque venin, vous avez des dizaines ou des centaines de substances différentes. Moins chez les arthropodes, où là le nombre de substances est plus faible, mais chez les serpents par exemple, vous avez 150 ou 200 protéines différentes dans un même venin, chez un même individu. Et ces différentes protéines agissent à différents niveaux. Elles peuvent agir au niveau du système nerveux, elles peuvent agir au niveau du sang, de la coagulation sanguine, elles peuvent agir au niveau des tissus, des muscles, pour les détruire, hein, puisque c'est un suc digestif au départ. Et voilà. Et donc, le venin va agir sur ces différents organes à son rythme et en privilégiant éventuellement, selon les espèces de serpents en cause, en privilégiant un organe plutôt qu'un autre.
On va venir aux araignées tout de suite après une petite pause musicale. Pudding à l'arsenic du dessin animé Astérix et Cléopâtre.
Le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Dans un grand bol de strychnine, des lésiers de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un thé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah
bon. c'est la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle.
Et un peu de vitriol.
Non. Oui.
Ah, je savais bien que ça serait bon.
Autour de la question, à quoi servent les venins, avec Christine Rollard et Jean-Philippe Chipot. Jean-Philippe Chipot, cette chanson qui parle de Cléopâtre, justement, qui a été tuée, enfin est morte, empoisonnée par un serpent.
Absolument, c'est le côté romanesque dont parlait l'une des personnes interrogées. Cléopâtre, qui connaissait remarquablement bien les poisons et les venins, et qu'elle testait directement elle-même sur des condamnés à mort, hein, elle avait une très bonne connaissance, s'est suicidée en utilisant celui des poisons et des venins qui était le moins douloureux, celui qui lui donnerait la mort la plus confortable, si je puis dire. Elle a choisi le cobra.
Et ça, c'est vrai. Enfin, c'est attesté.
Ah, c'est tout à fait, oui, ouais. c'est complètement...
Et au total, dans le monde, alors combien de décès à cause des serpents?
Alors, les serpents, c'est un petit peu moins de 150 000 morts par an dans le monde, avec essentiellement en Asie aux alentours de 100 000 morts et en Afrique aux alentours de 30 000 morts. Et le reste du monde...
Et les autres animaux, scorpions,
etc. Alors scorpions, c'est 2 500-3 000 morts par an, essentiellement sur le bassin méditerranéen, enfin le sud du bassin méditerranéen, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient si vous voulez, et le Mexique, l'Amérique centrale.
Et les insectes, guêpes
Alors, les guêpes, il y a deux choses. Il y a l'envenimation, c'est-à-dire que c'est le venin qui va tuer, mais là, il faut énormément de piqûres.
Oui, donc,
et donc
faut
ce
pas,
sont des piqûres d'essaim.
Il faut être victime d'un essaim, voilà, pas simplement d'une seule guêpe.
Et ça arrive, notamment au Brésil, il y a une centaine de morts par an. Mais sinon, ce sont des allergies.
Et qui peuvent tuer aussi.
Et qui peuvent tuer. En France, pour dire les choses, en France, vous avez entre 25 et 30 morts par an dû à une allergie,
dans le monde, à une piqûre. Ça fait combien, à peu près?
Alors, on ne sait pas bien, mais on sait que c'est à peu près, le chiffre est à peu près équivalent, c'est-à-dire que l'incidence dans le monde, on devrait tourner autour de 200 ou 300 000, peut-être même plus, morts par an.
Donc, à côté de cette hécatombe, Christine Rollard, vos araignées, elles sont totalement inoffensives,
tuent
très peu.
Complètement, parce qu'en fait, le nombre d'envenimations déjà, c'est-à-dire de contact avec l'araignée, de morsures, avec injection de venin, il y en a déjà très 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 peu. Et on a l'habitude de dire que c'est autour de entre 10 et 20 morts par an dans le monde entier.
C'est très peu, 10 à 20 morts par morsure d'araignée.
Et encore même pas dû au venin, action directe du venin, puisqu'en fait, il n'y a aucune araignée mortelle, contrairement à ce qu'on peut raconter dans les films.
Oui, on
sur
dit quand
Internet.
Même que la veuve noire est une araignée mortelle
c'est
pour
ça.
L'homme.
Oui, bah non, c'est faux, oui. Tout à fait. Et par contre, il y a des cas de mort, mais souvent dus à des envenimations, voire des surinfections, en fait, enfin des infections, voire des surinfections à l'endroit des morsures.
Et qu'on pourrait soigner avec des antibiotiques.
Ah, bah qu'on peut
très
soigner tout à fait simplement. Après, on peut avoir des réactions plus ou moins marquées selon les individus, mais ça ne va pas jusqu'à la mort.
Toutes les araignées ne sont pas venimeuses, donc.
Pratiquement si. En fait, on est rendu à 47 860 espèces d'araignées décrites à l'heure actuelle au monde. En 118 familles, il y a 3 familles qui ne possèdent pas de glandes à venin. Toutes les autres ont des glandes à venin, donc ce sont des araignées venimeuses.
Donc les mygales, par exemple, ça n'est pas dangereux, une mygale?
Non, il y a à peu près 2900 espèces de mygales au monde, qui font de 1 mm, hein, mais celles-là, on les oublie. Hein. Pour faire peur, on prend les grosses, hein, donc qui font une certaine taille, autour de 10 cm de taille de corps, qui ne sont absolument pas dangereuses pour l'homme. Par contre, la morsure d'une araignée comme ça peut être douloureuse, mais le venin ne va pas forcément agir sur nous qui sommes un mammifère et qui ne sommes pas les proies visées.
Et même la douleur, est-ce qu'elle dépend de la taille de ces araignées qui font peur, comme les tarentules,
la taille,
les mygales
La taille des crochets. La taille des crochets peut être effectivement importante. Et dans ces cas-là, si on a des gros crochets qui attaquent qui s'enfoncent dans le tégument, on le sentira. Mais une veuve noire, c'est déjà petit.
Et les crochets sont tout petits,
c'est indolore.
Pourquoi on parle tant de la veuve noire, puisque vous nous dites qu'elle n'est pas mortelle? Elle a une réputation quand même.
Elle a une très mauvaise réputation.
Très mauvaise, oui.
Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte quand on... travaille un peu plus sur les venins. Il y a à peu près 200 espèces d'araignées dont le venin a été étudié, hein, sur 47 800, c'est pas beaucoup, parce que justement elles sont rarement en contact avec l'homme. Et chez les veuves noires, on s'est rendu compte qu'il y avait une toxine qu'on appelait la mammotoxine, qui peut attaquer des mammifères. Donc selon les types de mammifères, effectivement, c'est plus ou moins actif. Et l'homme est assez réactif à certaines à cette toxine. Donc il peut y avoir des réactions individuelles plus ou moins marquées, avec une symptomatologie médicale qu'on connaît, qui correspond au latrodectisme. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas anodine, mais elle n'est pas mortelle pour autant.
Écoutons justement un son qui est un sifflement de serpent. Ce sifflement signifie que le serpent est prêt à attaquer. En général, les animaux venimeux ont toujours un signal d'alerte.
Oui, oui. Le crotale, l'exemple le plus classique, c'est le crotale qui a une sonnette, ce qu'on appelle la sonnette au bout de la queue, qui permet d'avertir et de prévenir pour éviter justement la confrontation.
Mais ça, c'est pour se défendre. Mais s'il veut attaquer une proie, il ne va pas le prévenir en disant « je vais t'attaquer ».
Il refuse la confrontation, c'est ça le message.
Non, mais pour la proie, s'il veut manger un rat, il ne va pas prévenir,
il va le mordre directement. Il va au contraire aller tout
très
doucement au contact, ouais. Et puis le mordre.
Ouais, oui, tout à fait.
Donc il y a deux fonctions finalement. Il y a le venin qui va servir à attaquer la proie, le mordre, le manger, et puis le venin qui sert à se défendre d'un prédateur.
Oui et non, en fait. Hein. C'est vrai que ces animaux venimeux sont à la fois des proies et des prédateurs. Hein, puisqu'en fait, ils vont être la proie d'un certain nombre d'autres animaux.
Le venin sert aux deux à se défendre et à attaquer.
Pas tout à fait, en fait. Il y a beaucoup d'animaux venimeux qui ont un venin en priorité, donc pour manger. Mais ils ne vont pas forcément utiliser ce venin pour se défendre. Donc il y a souvent, en fait, dans ces cas-là, des morsures ou des piqûres de défense qui sont dites sèches ou blanches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injection de venin derrière. Et de temps en temps, il y a injection et il économise parce que c'est un élément important pour lui dans son mode de vie pour se nourrir.
Et les araignées aussi. On apprend dans l'exposition que, d'ailleurs, elles préviennent aussi quand elles vont attaquer. Souvent, elles se mettent sur les pattes arrière,
elles ne préviennent pas non plus. Quand elles vont attaquer, elles sont un peu comme les serpents, c'est ce que disait Jean-Philippe Chipot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles vont être discrètes.
Oui,
elles vont approcher d'une certaine façon, ou attendre la proie.
Mais si elles se sentent elles-mêmes menacées, elles peuvent prendre une posture.
Des positions d'intimidation. Donc ça existe dans beaucoup d'animaux venimeux.
Comment alors?
Donc la première réaction, c'est la fuite en général. La deuxième réaction, c'est ce qu'on appelle la thanatose. Donc les animaux font les morts. La troisième réaction, c'est je me mets en position d'intimidation, donc je lève un petit peu la tête, je lève des pattes, etc. La quatrième réaction, c'est la morsure, mais sans injection de venin. Et de temps en temps, il y a des injections de venin. Donc c'est vrai que...
Et ce venin, d'ailleurs, d'où vient-il exactement? Il y a des glandes à venin, ces glandes ont une histoire biologique, Jean-Philippe Chipot?
Oui. Tout à fait. Les glandes ont une origine ancestrale qui varie selon les animaux. Par exemple, il y a essentiellement des glandes digestives. C'est le cas des serpents. C'est le cas des araignées. Ensuite, vous avez des glandes cutanées, hein, c'est-à-dire des glandes qui, ce qu'on appelle les glandes sudoripares, celles qui donnent la sueur, qui produisent la sueur, et qui ont été transformées au cours de l'évolution en glandes à venin. Ça, c'est chez les batraciens, c'est chez les poissons, enfin, il y a un certain nombre...
Chez les hules aussi, par exemple,
chez certains millepattes. Et puis, vous avez alors la particularité du scorpion, qui, lui, a une glande à venin dont l'origine n'est pas connue encore, et probablement même qui est dès le départ, une glande à venin.
Oui. Et alors, justement, il y a beaucoup d'exemples très concrets dans cette exposition, comme la vipère heurtante en Afrique, qui est décrite comme l'un des serpents les plus agressifs du monde et qui fait le plus de morts. Donc cette vipère heurtante, vous la connaissez bien?
Alors oui, je la connais bien. C'est effectivement un animal qui est très agressif, qui en réalité, cette agressivité, c'est un mode de défense. Hein,
heurtante, c'est-à-dire elle va frapper donc,
sa proie avec sa tête. Elle se replie sur la partie postérieure et elle projette la partie antérieure, donc la tête et le cou, vers la proie lorsqu'elle veut tuer une proie ou vers une personne, le prédateur. C'est un serpent très venimeux, mais c'est pas le plus dangereux d'Afrique.
Le plus dangereux d'Afrique,
c'est l'Equis ocellatus, qui est une toute petite vipère. Alors on en parle peu parce qu'elle est toute petite, qu'elle ne fait peur à personne ou à pas grand monde, alors qu'elle tue probablement 80% des décès décès, peut-être pas 80, mais 60 à 70% des décès en Afrique sont liés uniquement à cette groupe.
Justement, à tous nos auditeurs africains, justement, alors qu'est-ce conseil, on pourrait leur donner alors, cette vipère, si elle est discrète, si on ne la voit pas ou très difficilement, comment est-ce qu'on peut se faire mordre en marchant dessus par inadvertance ?
Non, alors en fait, c'est une. Il y a deux circonstances essentiellement. Hein. La première circonstance, c'est au cours des travaux agricoles, parce que c'est une vipère qui se trouve dans les champs pour manger les rongeurs qui viennent dans les champs pour récupérer les graines et les stocker. Donc le cultivateur ou la cultivatrice se fait mordre dans son champ. Et puis dans les maisons, parce que les maisons sont pleines de trous hein, en Afrique, c'est pas complètement étanche. Et les serpents viennent à l'intérieur des maisons pour, toujours pareil, chercher des rongeurs. Et donc pendant la nuit, puisque c'est un serpent qui a des mœurs plutôt nocturnes, pendant la nuit peuvent mordre quelqu'un qui dort et qui, sans faire exprès, essaye de chasser quelque chose qui vient le gêner. Et donc, à ce moment-là, il y a une morsure.
Qu'on se fait mordre. Christine Rollard, nous allons vous faire plaisir avec un extrait de film L'antre de l'araignée.
Oula.
C'est absolument féerique. T'es pas de mon avis ? Toi, tu vois de la beauté là où je vois d'horribles araignées.
Où ça ?
C'est bien ce qui me tracasse. Où est-ce qu'elles peuvent bien être ?
J'en ai froid dans le dos. Il n'y a qu'un monstre qui a pu tisser ça.
Je ne tiens pas à le savoir.
Je n'ai jamais vu une toile de cette taille.
Oui, Christine Rollard, cela a le don de vous agacer, ce genre de film où l'on parle d'horribles araignées.
Ah oui, mais complètement, oui. Donc là, on est dans le fantastique, complètement, et dans la fiction, et dans la réalité, donc des énormes toiles. Bon, il peut y avoir des toiles géométriques d'un mètre qui sont sous les tropiques, avec des grands tissages, quelquefois, pour certaines espèces d'araignées qui font des tissages en commun, mais qui font un millimètre de taille, hein, au niveau des individus. Et c'est pas parce qu'on a des énormes choses autour de nous que de toute façon la taille est équivalente à un danger potentiel.
Oui, puisque vous incitez les gens à avoir moins peur des araignées, puisque c'est vrai que c'est une phobie très répandue.
Oui, assez, oui, tout à fait.
Donc, mais qui n'a rien à voir avec le venin dont nous parlons dans cette émission.
Non, c'est sûr. Enfin, si, ça a quelquefois à voir, parce que certains pensent effectivement, comme idée reçue, que ce sont des animaux très, très dangereux. Et d'autres, effectivement, dans la phobie, c'est plutôt l'aspect de l'animal lui-même ou le déplacement qui va plutôt agir sur la peur un peu inexpliquée.
Et donc, à part les serpents et les araignées, il y a aussi d'autres animaux dans cette exposition du Palais de la Découverte. On découvre aussi beaucoup de grenouilles, de batraciens, et entre autres, celle-ci, le cocoï de Colombie, qui est considéré comme le vertébré le plus toxique du monde. Donc, on a souvent peur des serpents et des araignées, mais les grenouilles, qui ont l'air très sympathiques, sont parfois plus dangereuses.
Mais plus dangereuse, encore une fois, oui. C'est toujours la même chose.
Si on la prend dans la main,
si on essaye de l'avaler ou de s'en nourrir, c'est toujours en fait ce côté un petit peu le plus dangereux, le plus venimeux, oui. Qui est toujours un petit peu délicat, puisqu'en fait, on n'en a pas vraiment, on ne peut pas faire des classements, on ne peut pas faire des échelles, comme on peut le voir aussi sur Internet souvent. Et donc, on n'a pas forcément de comparaison à faire, puis ça dépend qui sera mordu, à quel endroit, quelle quantité
de venin. Parler de danger, en tout cas, disons, c'est une toxine très puissante, voilà. Puisqu'il y a 1 mg de cette toxine du cocoï, de Colombie, oui. Petite grenouille, quelques centimètres,
petite, ouais. Hein,
mmh. Suffisant pour tuer 10 hommes adultes.
Voilà, par c'est des expériences. Hein, donc,
avec cardio. Voilà. Oui, on n'a pas tué des gens pour le tester. Et aussi, comme d'ailleurs en parlait l'un des visiteurs du reportage que nous avions entendu en début d'émission, des oiseaux, Jean-Philippe Chipot, des oiseaux donc venimeux.
Alors, pas venimeux, alors, attention,
pas venimeux.
Hein. Vénéneux.
Vénéneux, c'est-à-dire voilà. Ils n'injectent pas, ils ne vont pas piquer
non,
ou
non,
mordre.
Non.
De quoi voilà. S'agit-il exactement ?
Alors, en fait, ce sont des... Comme d'ailleurs un certain nombre de batraciens, comme d'autres groupes d'animaux, ils, en ingérant des proies qui contiennent elles-mêmes des alcaloïdes, hein, sont assez souvent des alcaloïdes, c'est-à-dire des substances toxiques qui servent à ces proies pour se défendre contre les champignons, les parasites, les bactéries, les virus, etc. En ingérant ces proies, ils assimilent les alcaloïdes, ils assimilent ces molécules, ils les stockent dans leur glande, dans une glande. Et ensuite, évidemment, lorsque vous mangez l'animal, lorsque vous mangez ce batracien ou ce poisson, puisque ça existe également chez les poissons, ou cet oiseau, puisque nous avions démarré sur les oiseaux, eh bien vous avalez ces toxines, vous avalez ces alcaloïdes et vous pouvez être empoisonné avec.
Vous parliez justement des poissons. Voici un reportage sur le fougou, célèbre poisson toxique.
Tout à fait.
Un mets sulfureux très apprécié au pays du soleil levant. Un frisson gastronomique irrésistible pour ses amateurs. Une tentation culinaire qui fait aujourd'hui encore des victimes. Le fougou, le poisson tueur.
Donc au Japon, on mange du fougou, un poisson toxique, on se fait peur, c'est quoi? Alors c'est bon ou c'est parce que c'est juste pour avoir le petit frisson?
Sais pas, je suis pas à la place des Japonais, il y a une certaine mentalité, mais c'est vrai qu'on dit en plus que les cuisiniers qui doivent préparer ces poissons, en fait, il faut quand même grosso modo 5 ans pour arriver à bien savoir comment préparer, puisque le poison, les toxines sont dans certains organes et dans certains viscères en particulier. Le foie.
Donc il faut le cuisiner, enlever le foie, les intestins.
Et surtout pas l'ouvrir dans les chairs. Il ne faut pas qu'il y ait de contamination des chairs par ces organes-là.
Donc c'est toute une préparation. Donc c'est pas si évident que ça quand même.
Aujourd'hui, les poisons, les venins dont nous parlons depuis le début de l'émission, pour justement éviter d'en avoir une phobie exagérée, servent à soigner. Ils sont de plus en plus utilisés en médecine. Et écoutons ce reportage de la télé suisse, Canal 9 Valais.
Un venin utile à l'animal pour tuer sa proie et mieux la digérer, mais un venin qui peut aussi nous sauver la vie grâce aux 20% de molécules qui le composent.
Il y a 5 médicaments qui existent sur le marché qui ont été créés sur la base d'une molécule venant de reptiles et également pour la cosmétique.
Antidouleur, régulateur d'insuline ou d'hypertension artérielle, le venin intéresse la recherche, mais cela prend du temps.
Depuis le jour où on fait une extraction de venin jusqu'au médicament ou produit terminé, il faut compter environ 20 ans pour un coût de 2 milliards. C'est ce qui explique pourquoi on a si peu de ces médicaments provenant d'animaux encore aujourd'hui sur le marché.
Les venins ont donc des vertus thérapeutiques, aussi bien chez les araignées que chez les serpents.
Donc, ça a été beaucoup plus étudié, en fait. Les araignées, c'est étudié depuis pas très longtemps, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines toxines qui pouvaient être intéressantes au niveau médical, pour peut-être soigner certaines maladies. Il y a des collègues qui travaillent effectivement, on a évoqué là des antidouleurs éventuellement aussi, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus étudié quand même depuis beaucoup plus longtemps chez les scorpions et les serpents en particulier.
Oui, Jean-Philippe Chipot, qu'est-ce qui fait qu'un venin qui normalement est fait pour tuer peut guérir, soigner?
Alors déjà, il faut faire la distinction entre le venin qui est composé d'un très grand nombre de molécules, notamment chez les serpents, 100, 150, 200 protéines différentes, et une de ces molécules dont on va exploiter l'activité au bénéfice du malade.
C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le venin en tant que tel dans un médicament, mais on va extraire une molécule intéressante pour telle ou telle propriété.
Absolument. Et donc, on a commencé par étudier les propriétés des venins et par extraire les différentes molécules d'intérêt, ce qu'on appelle les molécules d'intérêt, c'est-à-dire celles qui avaient une activité, notamment chez les mammifères, puisque l'homme est un mammifère.
Et ce sont des molécules qui n'existent nulle part ailleurs que dans des venins.
Si, elles peuvent exister ailleurs, elles peuvent exister... D'ailleurs, il y a des molécules qui sont communes dans plusieurs groupes...
Oui, mais pourquoi on va les chercher chez les venins, alors si elles existent ailleurs, ces molécules?
Alors, on les trouve dans les venins, d'une part parce que certains venins sont relativement faciles à obtenir, c'est le cas des venins de serpent, c'est quand même plus facile d'obtenir une grande quantité de venins de serpent qu'une grande quantité de venins de scorpion, par exemple, ou de cône, de mollusques marins. Et puis d'autre part... On n'est pas parti dans l'idée d'utiliser le venin comme médicament de façon spécifique. On est parti d'abord de l'idée de comprendre comment les venins fonctionnaient.
Oui, mais alors Quelle maladie aujourd'hui est-ce qu'on commence de soigner avec des venins? Je crois le diabète de type 2.
Vous avez beaucoup de maladies cardiovasculaires, hein, c'est oui. probablement les plus fréquentes. Oui. Et en particulier toutes les maladies, enfin pas toutes, mais un certain nombre de maladies qui sont liées à la coagulation du sang ou à l'empêchement de coagulation du sang chez certains patients. Parce que le venin de serpent en particulier, le venin de vipère, agit sur la coagulation sanguine, donc... à des doses très faibles de certains de ces constituants, on peut corriger des troubles de la coagulation. Il y a le système nerveux, oui. Qui est aussi une cible extrêmement importante. Il y a effectivement le diabète de type 2, c'est-à-dire pas le diabète insulino-dépendant, mais le diabète.
C'est-à-dire on va utiliser une propriété d'une molécule qui normalement est faite pour paralyser la proie, par exemple, et cette propriété, on va l'utiliser à bon escient pour guérir, c'est ça ?
Parce que, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure, en fait, les venins, c'est des cocktails de plein de choses. Hein. Donc après, ça va être certains éléments qui vont agir effectivement aussi au niveau de la proie. Et après, il y a d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour la digestion des proies, pour il y a des enzymes, il y a tout un tas de choses en fait. Donc c'est quand on voit, quand on peut extraire un peu tout ça, qu'on voit si telle ou telle molécule peut être intéressante ou pas. Et elles peuvent agir dans un certain sens et autrement pour l'animal dans son rôle de prédateur.
Dans l'exposition, il y a également une rainette qui sécrète un analgésique 40 fois plus puissant que la morphine. Et donc, cet analgésique pourrait remplacer la morphine, être utilisée en médecine. Donc il y a déjà des commercialisations de médicaments, des entreprises qui commercialisent déjà des venins de serpents et d'araignées aussi.
Oui, alors, tout à fait.
Plutôt serpent, oui. D'ailleurs, pas trop araignée, ça, c'est pas, c'est pas trop développé.
En l'occurrence, l'analgésique dont vous parlez, qui d'ailleurs, en réalité, celui qui est étudié, enfin celui qui est cité dans l'exposition poison, c'est la mambalgine qui vient du mamba noir, du Dendroaspis polylepis, qui est un serpent. Mais il y a une molécule tout à fait similaire, originaire du cône, c'est-à-dire d'un mollusque marin, qui est commercialisé depuis 5 ou 6 ans sous le nom de Prialt, et qui est utilisé plus aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. En France, elle est arrivée un peu plus tard et elle est relativement peu utilisée. Mais aux États-Unis, elle est très utilisée comme analgésique, en remplacement effectivement de la morphine, soit quand la morphine n'agit plus, soit dans un certain nombre de pathologies où on a besoin, ce sont en particulier des pathologies où la douleur est chronique et où on sait qu'on va être obligé de l'utiliser pendant longtemps. Et comme cette molécule n'a pas les propriétés, enfin n'a pas les inconvénients de la morphine, en particulier en termes d'addiction, on a quand même un peu plus de liberté d'utilisation.
Autour de la question à quoi servent les poisons et les venins, nous allons entendre une musique qui justement fait référence à ces poisons, une tarentelle du groupe Masca Rimeri, Son Lubulu.
Autour de la question sur RFI.
Sincero ed emozionante, che ancora oggi si sente vibrante.
Senti cavallo, io da giù parlà, la storia non scia stanno a cambiare. Sono tullu ballu della tradizione e la taranta non è della pezzica.
Senti cavallo, io
parola non mi è stata trasmessa, anzi me noiamo proprio abbastanza a nominarle un
brrrr.
Senti salento io da giù parla, la taranta non è della bicicletta, modula l'ubede e riprendi a ballà, dall'alba al tramonto la becceca.
Ballavi, ballavi l'antecca, parucucca, la donna sei lontana, la donna sei lontana, la donna sei lontana, e l'uomo cucca, e l'uomo cucca, e l'uomo cucca, la donna sei lontana, e l'uomo cucca.
Donc c'est une tarentelle revisitée. Tarentelle, cela a un rapport avec la tarentule, l'araignée, Christine Rollard?
Alors, il se trouve qu'effectivement, on a une araignée qu'on a décrite comme étant une tarentule. Donc, c'est une petite araignée loup, enfin une petite, une certaine taille, puisqu'elle peut faire autour de 2 cm de taille de corps, qui a été découverte dans la ville de Tarente, en Italie, hein, dans les Pouilles. Et donc, elle s'appelle Lycosa tarentula. Et on pensait à une certaine époque que quand on était mordu de la tarentule ou piqué de la tarentule, on avait voilà, une symptomatologie qu'on connaît, des sueurs froides, un petit peu des dérèglements, des contractions musculaires, et que pour enlever les effets de ce venin, il fallait danser une danse de plus en plus, sur un rythme de plus en plus endiablé, qu'on appelait la tarentelle, en liaison avec cette tarentule. Or, en fait, elle est complètement inoffensive pour l'homme. Hein. Donc, on la voyait, elle était grosse.
Mais elle peut quand même mordre.
Elle peut mordre si on l'embête, elle est assez discrète.
Mais, cette tarentule...
mais elle ne fait rien.
Mais cette tarentule, elle n'existe pas que dans la ville de Tarente. Il y en a ailleurs aussi. Pourquoi ? On l'a découverte ici.
On l'a découverte là, et donc elle a été décrite comme telle. Elle est plutôt dans la partie sud, en fait, hein, au niveau région méditerranéenne. Mais le problème, c'est qu'on confond souvent cette tarentule, qui est une espèce, avec les tarentules. Les tarentulas, c'est des anglo-saxons qui correspondent en fait aux grosses mygales tropicales. Mélange un petit peu les deux termes, hein, donc ils n'ont rien à voir, puisque dans un cas c'est des grosses mygales et dans un autre cas ce n'est pas une mygale mais une araignée loup qui court au sol et qui a une taille
Ce qu'on appelle tarentule quand on imagine grosse araignée, ça n'est rien d'autre qu'une grosse mygale finalement.
Exactement, donc c'est les anglo-saxons qui ont parlé des grosses mygales qui sont au-dessus de, on va dire, 8 cm de taille de corps et qui sont regroupées dans le terme de sous le terme de tarentulas.
Mais alors vous qui manipulez des araignées à longueur de journée, est-ce que vous êtes déjà fait mordre?
Alors, je ne manipule pas quand même des araignées à longueur de journée. J'essaye justement
vous
de faire.
Observez,
je
les
observe.
Prenez.
Non, je les observe. Et dans mes missions, il se trouve que bon, on est encore à décrire la diversité qui nous entoure.
Mais quand
donc
vous les attrapez,
je les attrape et je les mets dans l'alcool. Et après, c'est pas évident.
Vous faites comment, à main nue?
Et j'attrape pas à main nue. Je mets des récipients où la majorité des araignées, c'est ce qu'on a du mal à s'imaginer, elles font 5 mm. Donc je les aspire avec un aspirateur à bouche. Mais je les avale pas.
Ah,
et après, effectivement, il n'y a pas trop de manipulation.
Alors, donc concrètement, vous êtes déjà fait mordre ?
Mais concrètement, je me suis fait mordre une seule fois. En essayant effectivement de faire se déplacer une araignée sur ma main, qui est une grosse araignée tropicale qui fait à peu près 3 cm de taille de corde, ce qu'on appelle les néphiles, qui font des belles toiles géométriques, et entre guillemets ne voulait pas descendre du support qui était ma main, hein, puisque je ne suis rien pour elle, et j'ai un peu titillé. Donc effectivement, quand je parle de manipulation, je ne veux pas manipuler, je ne veux pas embêter l'animal, et parce que je l'embêtais, à un moment donné, l'araignée a mordu, mais ça ne m'a strictement rien fait.
Et vous, Jean-Philippe Chipot, vous êtes déjà fait mordre par des serpents ?
Une fois, oui.
Par quel serpent ?
Je me suis fait mordre par un crotale asiatique un jour où je le prélevais, donc là je l'embêtais vraiment. Et il a planté son crochet dans mon pouce, le pouce qui tenait le bocal dans lequel je voulais qu'il mette son venin. Et pareil, j'ai été piqué, donc...
Alors on dit piqué ou mordre d'ailleurs ?
Alors là, on dit mordre quand le serpent mord, mais là en l'occurrence c'est une piqûre dans le sens où le crochet est rentré dans mon pouce, exactement comme une aiguille, comme une épingle. Je l'ai retiré délicatement, et le serpent a eu la gentillesse de ne pas inoculer du venin. Je sais qu'il a du venin.
Mais c'est assez dangereux d'ailleurs.
Parce qu'après, je l'ai prélevé et il a effectivement fourni du venin. Mais il n'avait pas envie de ce jour-là de me...
Et sinon, si vous avez vraiment injecté son venin, un venin de crotale, ça fait quoi ?
Oh, je pense que le risque majeur, en l'occurrence, même avec un traitement, je pense que je risquais de perdre une phalange. C'était à peu près...
C'est-à-dire, pourquoi vous la perdez ? Parce que ça
n'est... C'est un venin très nécrosant, hein, c'est un suc digestif, donc ça dissout les tissus, les muscles et les os.
Donc vous perdez la parole
souvent. Concrètement,
si on, justement nous sommes écoutés par beaucoup d'auditeurs qui vivent dans des régions où il y a aussi beaucoup de serpents, je pense notamment à tous nos auditeurs africains. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on est mordu par un serpent? On entend parfois différentes choses qui sont un peu contradictoires. Est-ce qu'il faut se mettre à courir? Est-ce qu'il faut faire un garrot? Est-ce qu'il faut vite s'amputer le membre piqué ou mordu? Jean-Philippe Chipot, vous leur conseillez quoi à nos auditeurs?
De se rendre le plus vite possible dans un centre de santé, en espérant que dans ce centre de santé, il y aura les antivenins nécessaires.
D'accord, mais voilà. Si, disons, le centre de santé est à un jour de marche...
C'est le cas le plus fréquent, et effectivement, on reçoit beaucoup de patients. La moitié des patients arrivent après 24 heures.
Donc le venin, il ne faut pas forcément paniquer en se disant...
Non, il ne faut surtout pas paniquer, il ne faut surtout pas couper le membre.
Oui, il y a des anecdotes comme ça de gens qui sont mordus et qui s'amputent le bras, et ça, alors qu'est-ce que vous en pensez?
C'est tout à fait... il faut absolument
pas
faire ça.
Mais pour éviter, on dit qu'il faut faire ça pour éviter que le venin envahisse le corps.
Non. Le venin, d'abord, diffuse très vite.
Donc c'est-à-dire que c'est trop tard, ça ne sert à rien.
C'est trop tard, ça servira à rien.
Il est diffusé en quelques secondes à peine.
Voilà, il sera éloigné du point de morsure, et surtout le risque d'une évolution défavorable, qu'elle soit mortelle ou simplement un risque de nécrose, sur le nombre total de morsures, est relativement faible. Il est très inférieur à 10%. Donc, amputer un membre pour un risque de cette nature...
Et aujourd'hui, est-ce qu'on a des antivenins qui fonctionnent efficacement?
Bien sûr, tout à fait. On a des antivenins qui sont, ils sont efficaces, ils sont très très bien tolérés, hein, contrairement à une réputation...
Pour tous les animaux, c'est-à-dire quel que soit l'animal, serpent ou araignée, on a des antivenins efficaces aujourd'hui?
On a pour les serpents, la plupart des serpents venimeux, on a pour les scorpions, on a pour une araignée, trois araignées.
Parce que chaque antivenin...
deux araignées vraies, certaines veuves noires, des araignées qui ont un venin aussi un peu nécrotique, et puis sinon une mygale en fait en Australie.
On a des antivenins qui fonctionnent pour différentes espèces, on n'a pas forcément un antivenin.
On a des polyvalents. Alors pour les araignées, ce sont en général des monovalents, encore qu'il y ait au Brésil en particulier, ils font un polyvalent avec deux espèces d'araignées différentes, enfin deux groupes d'araignées différents. Mais pour les scorpions et les serpents, on utilise plutôt des polyvalents pour une région donnée, ce qui évite d'avoir à identifier l'animal.
Voilà. L'émission touche bientôt malheureusement à sa fin. Donc je rappelle donc cette exposition Palais de la Découverte à Paris, c'est l'exposition Poison. Il y a beaucoup de conférences, notamment Christine Rollard, vous allez faire une conférence
bientôt là, un samedi donc prochain, sur les arachnides, en particulier nos compagnons du quotidien, et avec un petit peu, on enlève les idées reçues.
Voilà, et donc aussi une conférence sur l'utilisation médicale des venins par Jean-Philippe Chipot. Je rappelle l'un des livres que vous avez donc publié ensemble, La fonction venimeuse, aux éditions Lavoisier. Christine Rollard et Jean-Philippe Chipot, merci.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Portez-vous bien, merci de votre fidélité, et dans quelques instants, les infos sur la radio mondiale.